cette sauce tomate là, ce ravioli. J'avais l'impression que le truc, il s'était passé un truc chimique à l'intérieur de la pâte. En général, je mange vite, mais j'y repense beaucoup après. Je devrais manger plus lentement.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du meilleur podcast, le podcast où on débat des meilleurs trucs. Je suis Cyrus.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va se pencher sur cette nouvelle question. C'est quoi la meilleure cuisine du monde? Pardon, je suis Tom.
Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Guillaume du podcast Bouffon et de la chaîne YouTube Le Club. Il a aussi fait un bouquin qui s'appelle Saison, où il parle de cuisine dedans, etc. en fonction des saisons. On en reparlera peut-être, sûrement.
Probablement.
Il y a des chances. Bonjour Guillaume.
Salut Cyrus, salut Tom.
Et on reçoit également à table aujourd'hui, c'est le cas de le dire, c'est la meilleure cuisine du monde et qu'on est vraiment autour d'une table.
Pas mal.
Voilà, c'est parti. On reçoit également Tequila Tex, le meilleur DJ du monde, comme il aime sobrement s'intituler.
Ça dévalue complètement ce que tu viens de dire. Si tu dis comme il aime, c'est pas comme j'aime le faire, c'est un truc objectif qui était déclaré par beaucoup de gens.
Il y a un certificat.
Il y a un certificat.
Je l'ai vu.
Et spécialiste en tout et qui aime beaucoup donner son avis sur beaucoup de choses et qui a eu beaucoup de vie.
Voilà. Et là, par contre, il faut mieux que tu dises que c'est lui qui l'a dit. Parce que si tu dis, on dirait que toi t'es méchant. Genre, on dirait que c'est passif-agressif. Et il aime beaucoup dessiner sur plein de choses.
Ouais, c'est vrai.
Selon lui.
Non, il m'a dit, comment tu veux que je te présente? Alors, moi.
Il s'est dit, je vais faire la meilleure intro du monde.
Ben non, mais c'est à dire que voilà, pourquoi est-ce qu'on m'invite ici? C'est parce que mon avis compte.
Absolument.
Mais avant de se lancer dans ce nouveau débat, Tom, tu voulais nous parler d'un nouveau problème dans l'édit Tom.
Effectivement, j'ai un problème avec la nourriture. Bah, je trouve qu'on la respecte trop, mais genre beaucoup trop. Non mais c'est vrai, regardez un peu ce qu'on fait des légumes qu'on achète aux courses ou au marché. On les transporte avec attention, puis on prend soin d'eux en les mettant bien au frais, et ensuite on va même jusqu'à les laver et les nettoyer. Clairement, moi il y a des humains que j'ai reçus chez moi et dont je me suis beaucoup moins bien occupé. J'ai beaucoup plus de considération pour un brocoli que pour Éric Zemmour, c'est sûr. Mais plus que la nourriture, c'est le repas qu'on respecte trop. Manger, franchement, quand on y pense, c'est le seul besoin primaire qu'on a autant sacralisé. Hein. Il n'existe pas de douche d'anniversaire ou de caca de famille, par exemple. Hein. Toutes les célébrations de la vie s'articulent autour du repas. Dès qu'il y a un truc à fêter, on bouffe. Et ça s'arrête pas à la vie réelle. Hein. Non, Internet, c'est pire. Attendez, je suis sûr que vous avez tous déjà posté une photo de bouffe sur Instagram, mais jamais une photo de votre daronne, par exemple.
C'est vrai.
Voilà. Moi, j'ai posté une photo de ta daronne sur Instagram.
Ça compte pas, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, ça compte pas. Mais en fait, c'est pas en France que c'est le pire hein, quand on y pense. Non, le pire, c'est les États-Unis avec leur délire du dernier repas du condamné à mort. C'est quand même fou ce truc, non?
Ouais,
en gros, ça se passe comme ça. Monsieur Mackenzie, vous avez dans d'atroces souffrances tué et mutilé 700 personnes non binaires. Ouais, je prends zéro risque.
T'as bien raison.
Pour avoir commis le crime le plus terrible de l'histoire du monde, vous serez condamné à mort. Bon, par contre, vous avez le droit de faire un dernier repas de bâtard, hein, on va pas déconner non plus. Je vous conseille la paella de la cafette, d'ailleurs, elle est au top. Donc du coup, je me suis renseigné sur les derniers repas des condamnés à mort, et il y a un mec qui a demandé 1 litre de glace menthe chocolat. Non, t'es sérieux, mec? 1 litre de glace menthe chocolat? T'es condamné à mort pour abuter des gens. De la glace menthe chocolat, t'en trouveras partout en enfer. T'inquiète pas, prends un autre truc. Non, du coup, ça m'a permis de me poser la question. Qu'est-ce que moi, j'aurais choisi comme plat? Et je pense que j'aurais pris un truc à l'ail hyper fort, histoire de bien faire chier le personnel pénitentiaire jusqu'au bout. Et donc du coup, je voulais commencer ce tour de table par cette première question. Et vous, chers invités, quel serait votre dernier repas du condamné à mort? Guillaume, je te pose la question.
Je pense que je prendrais genre du confit de canard ou peut-être une grosse côte de bœuf ou un truc vraiment qui me bute quoi.
Quitte qu'à
une énorme côte de bœuf.
T'as peur d'avoir la petite fringale du mort quoi.
C'est ça. Non mais quitte à avoir mal au ventre, tu t'en fous quoi. C'est.
T'es qui, t'aurais bouffé quoi?
C'est pas con ce que tu dis parce que moi j'allais donner un choix vachement sentimental, genre l'escalope panée de mon grand-père, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as pas envie d'être encore plus triste que tu ne l'es, que ta vie va s'arrêter, donc t'as plutôt envie de prendre un truc qui en temps normal aurait des conséquences sur ta santé, mais qui là on s'en fout puisque tu meurs.
Cyrus?
Ouais, j'avoue, c'est pas bête ce truc de conséquences sur la santé. J'avoue, pareil, j'étais parti sur un plat iranien de mon enfance ou un truc comme ça, mais je pense que un truc bien sucré avec beaucoup de sucre ou un Big Mac. Non, franchement, un Big Mac.
Ok, carrément.
Ouais, j'ai changé. Un Big Mac, c'est naze, mon gars.
Non.
Un Big Mac, enfin, je veux dire, Tu veux vraiment quitter la vie sur un Big Mac?
Non, ouais, sur un meilleur burger peut-être.
Non, mais j'ai à la fois genre plein de souvenirs avec le Big Mac.
Ok.
Ça symbolise plein de choses et en même temps, je trouve ça, mec, je trouve ça bon. Je suis désolé. Alors, la sauce Big Mac est très bonne.
Deux Big Mac,
ça ne se fera jamais.
C'est vraiment le truc qui te rendra le plus heureux à ce moment-là.
Non, vraiment. Mais mec, dans tous les cas, il y a rien qui me rendra vraiment heureux, quoi.
Bah, quand même.
Je vais crever. Le but, c'est que je crève. C'est quoi? C'est combien de temps avant? C'est 2 heures avant?
Ouais, un truc comme ça.
Voilà.
Est-ce que vous, il y a une cuisine que vous avez goûtée où vraiment vous avez dit, ok, là, je m'aventure à un truc de fou. Ce truc-là, c'est hors de toutes mes zones de confort alimentaire. Et vas-y, je vais dedans et je goûte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Moi, ça m'est arrivé au Népal, ou genre, quand c'était au temple entre guillemets. T'sais. Et donc, vu que tu peux pas demander ce que c'est.
Faut que tu expliques ce que c'est au temple, du coup.
Oui, c'est en gros, tu pars faire une retraite méditative et t'as pas le droit de parler, etc. T'as pas le droit de parler avec les gens qui te servent à manger. Donc, tu peux pas poser des questions sur. Enfin, ta parole est très limitée. Donc, t'as le droit de poser des questions, genre en mode hey, j'ai un problème de PQ dans ma chambre, et donc on va t'aider. Mais t'es pas là pour parler, quoi. Donc, tes questions sont limitées et tu vas pas demander c'est quoi la bouffe. Tu vois, genre, c'est le plat unique et genre, tu le manges pas, c'est ton problème. Et genre, t'es obligé de bouffer parce que bah, si tu bouffes pas, t'as faim toute la journée. Tu vois, les temps de bouffe sont très réglementés. Et genre, c'est de la bouffe. Genre, aujourd'hui,
des vacances ultra sympas, en gros.
grosses vacances. Mais du coup, j'ai bouffé des trucs, je sais toujours pas ce que c'est. Tu vois. Et genre, ça avait des goûts hyper chelous. Il y avait des trucs qui avaient vraiment l'air salés. Mais pourtant, c'était sucré en bouche. Enfin, tu vois, plein de trucs chelous. Donc là, je suis sorti de ma zone de confort, mais j'avais pas le choix en même temps.
C'est drôle parce que ça, tu parles sur la méditation. Moi, ça me pourrait me torturer la tête des années après de ne pas savoir ce que j'ai mangé. Et tu te dirais l'effet inverse, ça a fait sur toi ces vacances au temple. Pendant 10 ans, tu te dis qu'est-ce que j'ai mangé, putain.
T'as jamais su du coup ce que c'était?
Non, j'ai pas su, mais c'est pas grave quoi.
Non, en vrai, c'est pas grave. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une cuisine en particulier qui est plus ambitieuse qu'une autre dans ce qui te serve. Parce que ça va être des touches par. Tu vois, des fois, genre, j'ai mangé des foies de poulet frit à la Nouvelle-Orléans, mais j'ai aussi mangé des trucs chelous au Japon, j'ai aussi mangé des trucs chelous en France. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que chaque cuisine a son truc un peu ambitieux. Peut-être au Mexique quand même, je suis jamais allé au Mexique, mais je pense qu'au Mexique tu dois peut-être avoir des trucs vraiment.
Mais après, si c'est pas en rapport avec des endroits du monde, c'est pas grave. Là pour le coup, c'est vraiment juste ton expérience perso d'un moment où genre.
Je pense que c'est la fois où ils ont amené plein d'abats de poulet frits de manière différente sur une table à New Orleans, ouais. Où en fait, j'ai tout mangé en disant putain, c'est trop bon. Et le mec nous expliquait après ce que c'était. Et je me suis dit putain, c'est vraiment, on me l'aurait dit avant, je l'aurais pas mangé en fait. Et.
J'ai honte, mais je sais pas ce que c'est les abats.
C'est toutes les parties que tu manges pas, oui. Le foie, okay. Les rognons.
Parties considérées non nobles, mais qui ouais. Au final ouais. Ça dépend des cultures.
Ouais.
Mais ouais, le
genre les pattes de poulet par exemple.
Ça peut. Les ouais. Abats, c'est quand même plus à l'intérieur les abats quand même, je crois.
Oui, mais la glande là, le riz de veau.
Ah oui,
bien joué. Ouais,
le riz de veau ou d'agneau d'ailleurs. Ça c'est ultra bon et les gens en ont méga peur, comme si tu mangeais la testicule d'un truc.
Les cœurs de canard, c'est un délice.
Ouais, ça, c'est très délicieux. Bon.
Mais ce qui est horrible, c'est que je le dis tout le temps, parce que je le raconte, en fait, un jour j'en ai commandé, il t'amène 5-6 cœurs de canard dans une petite assiette qui fait genre vraiment 10 cm de diamètre, et tu te dis putain, 5-6 cœurs de canard, c'est quand même 5 ou 6 canards quoi. Qui est...
Ouais, c'est vrai que moi je suis végétarien. depuis le début du podcast, je me dis tous les végétariens qui nous écoutent doivent.
Enfin, t'es végétarien, t'as quand même voulu un Big Mac comme dernier.
Mais mec, c'est ton dernier, tu dis bon, tant pis quoi.
T'as raison. Pourquoi on aime et pourquoi vous aimez autant bien manger? C'est quoi que vous kiffez dans l'idée de vous faire un bon repas? Est-ce que c'est le moment, les produits, la surprise? C'est quoi qui vous fait le plus kiffer, Cyrus?
Bah écoute, moi je me rends compte depuis un an maintenant que en fait j'aime pas tant manger que ça.
Non mais c'est un peu enfin, sur le côté.
Non mais déjà depuis plus longtemps je m'en rends compte, mais je m'en rends beaucoup plus compte maintenant que tu vois genre je sors avec quelqu'un qui est très foodie. Et je me rends compte à côté d'elle que en fait moi c'est pas tant mon délire que ça en fait, et ça l'a jamais été. C'est-à-dire que depuis toujours manger pour moi c'était une nécessité. C'est-à-dire que il y a des fois où genre je saute des repas parce que j'ai de la flemme en fait, et pour moi si j'avais pas besoin de manger, bah je pense que je mangerais pas souvent, tu vois, genre ce plaisir gustatif je l'ai pas tant que ça, et genre ça me désole. Je suis le premier à être triste de ça parce que je me rends compte que bah je dois passer à côté de plein de trucs, tu vois. Mais genre quand je vois les gens qui parlent avec, tu vois, des étoiles dans les yeux de ouais ce plat là il était ouf et tout, moi je le mange, je fais ouais c'est cool, c'est bon. Mais tu vois, genre ça va pas me secouer plus que ça, donc.
Du coup, c'est plus le moment à la limite social.
Ouais,
avec
le moment social. Et puis,
que...
non, et puis la découverte, en fait, c'est vachement. J'intellectualise ça vachement, je crois. Genre, ça va être plus la découverte, genre, ah, un nouveau goût intéressant, machin. Ah, ça va avec ça, c'est cool. Ah, la texture est cool, tu vois, mais ça va pas être un truc qui me prend au trip, quoi.
Ok.
c'est marrant. Je,
c'est un peu triste ou pas?
Non, non, mais j'étais, c'est drôle parce que en fait, l'analyse que t'as faite de dire en fait, si j'avais pas besoin de le manger, je le ferais pas forcément. Je pense que c'est, ouais, c'est là que t'as vraiment tracé la ligne entre ceux qui sont des passionnés de bouffe et ceux qui le sont pas, en fait. Et j'avais jamais réussi à mettre le doigt sur ce truc-là. Mais ouais, bah, alors, du coup, je me remets de ces émotions.
C'est une horreur, ce témoignage. ce qu'il vient de déclarer, c'est d'une tristesse absolument profonde et qui moi, est en train de me
ronger de l'intérieur.
Complètement, ouais, me détruire intérieur. Là. Ouais,
il a plus ou moins dit qu'il aimait pas la vie, hein, globalement.
C'est ça.
Ouais, non, mais je me dis, voilà, on attend l'arrivée des robots sur Terre, mais ils sont déjà là. En fait.
Moi, c'est pas, c'est vraiment un mélange de plein de trucs. C'est déjà le truc le plus régulier, ça va être comme tous les repas de la journée, enfin des journées qui s'enchaînent. Bah, déjà le plaisir juste de manger des trucs, c'est un plaisir qui est quand même que je trouve à l'inverse de Cyrus. Moi, ça m'enchante tous les repas. Je suis content s'ils sont réussis. Et puis après, dans d'autres occasions, ça va être soit le partage avec des potes quand on est une table de 5-6 et qu'on se marre et qu'on mange bien, ou le voyage où tu découvres, mais ça va être ces trois trucs là qui vont se regrouper, quoi.
Mais je précise qu'au contact de cette personne, c'est en train de changer. Et c'est à dire que en fait je me rends de plus en plus compte du côté artistique, j'ai envie de dire, c'est à dire que de tout l'artisanat qu'il y a derrière la fabrication d'un plat, tu vois. Et en fait je me contente pas que du goût, mais genre de toute la tout ce qui a amené à que ce plat existe.
J'analyse le savoir-faire de l'artisanat et il me satisfait. Cela me procure, comment dites-vous les humains, du plaisir, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup manger.
Non, mais tu vois, genre, ce week-end, je suis allé manger un burger.
Ça m'a fait trop rire que tu sortes un resto 3 étoiles de ouf. Si on est genre, tu sais, je suis allé chez Alain Passard et franchement, c'était pas mal.
Hein,
c'était
bon, hein,
mais... Non, mais un truc qui s'appelle Shinsu ou Shinsu.
Qui est sur le canal, c'est un
boutique de basket.
Non, non, non. Shinzo. Non, sur Saint-Michel.
Et je
c'est vrai, ça devait pas être terrible puisqu'ils vendent surtout des baskets. Mais...
et genre, non, mais c'était pour moi, genre, j'ai eu mon meilleur burger depuis que je suis végétarien. En fait.
C'était un burger végétarien?
Ouais.
Okay.
Et genre, c'était trop bon, et tu vois, c'était trop de la balle, et genre vraiment ça m'a, genre j'en ai tout, j'ai envie de le remanger là maintenant, mais je veux dire ça me fait ça pour très peu de plats, quoi, c'est rare.
Toi, t'es qui, c'est quoi que tu kiffes quand tu manges?
J'aime bien mettre des trucs dans ma bouche et après je me sens bien, tu vois, j'aime bien avoir des trucs dans mon estomac, et c'est aussi bête que ça. J'aime aussi en parler, j'aime bien en parler, en fait, autant que j'aime manger. Et je pense que je rejoins certaines personnes autour de cette table là-dedans. j'aime bien y penser, ouais, y repenser après, quoi. Me dire qu'est-ce qui m'est arrivé là, putain, ce bouillon là, il était incroyable. Enfin, tu vois, cette sauce tomate là, ce ravioli, j'avais l'impression que le truc, il s'était passé un truc chimique à l'intérieur de la pâte. Voilà, j'aime bien y repenser après, j'aime bien en général je mange vite, mais j'y repense beaucoup après. Je devrais manger plus lentement.
Moi aussi.
Je suis un gros gourmand et c'est un secret pour personne. je m'empiffre quand j'aime un truc, surtout quand c'est la deuxième fois que je le mange. Et que je me dis, oh putain! Et que surtout que si c'est un truc un peu rare. Par exemple, là, en ce moment, il y a dans le quartier, hein, une épicerie italienne qui s'appelle Rap. Je n'y vais pas si souvent parce que c'est juste assez loin de chez moi pour que j'ai la flemme d'y aller. Et trop près pour que ce soit une destination. Okay. Mais quand j'y vais. Et quand j'y vais, je me fais plaisir, tu vois. Et du coup, un jour, je suis tombé sur ce truc. Ils avaient un truc qui s'appelle Coppa di Testa. Donc, c'est du fromage de tête, en gros, mais à l'italienne. Donc, plus goûtu et plus fin et coupé très finement. Enfin, ils ont l'habitude de le couper. Moi, ils m'ont fait des tranches très fines comme si c'était du jambon, quoi. En gros, comme si c'était du jambon de Parme, tu vois. Et donc, je suis rentré chez moi avec ces trucs-là. Et honnêtement, j'ai tout mangé d'un coup. Enfin, je me disais, je vais peut-être faire un sandwich avec. Je vais garder une ou deux tranches pour me faire un sandwich demain. Non, 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 mais pas. Je me suis levé la nuit pour finir le truc. C'est délicieux, incroyablement délicieux. Et donc, pendant toute la semaine, je me suis dit, je vais retourner chez Rap et je vais m'en faire un. Et là, j'y retourne et ils me disent, ah bah non, monsieur, on en a plus. Donc quand je vais le remanger, je sais qu'il va falloir que je me fasse un gros travail sur moi-même pour pas tout bouffer d'un coup, pour pouvoir mieux le savourer. Mais c'est vrai que c'est une épreuve de zen de se concentrer pour manger plus lentement, pour que le plaisir dure plus longtemps.
Vu que tu disais dans le quartier, je précise qu'on est dans le 9e arrondissement pour les
bien
gens
joué.
Qui nous écoutent.
Bien joué.
De Paris.
De Paris, évidemment.
Du coup, est-ce que c'est pas...
Enfin, pas évidemment, parce que enfin, c'est pas une évidence.
C'est pas évident, il y a des arrondissements dans plein d'autres villes. Pardon,
tout à fait.
Donc, c'était une belle déclaration d'amour à la charcuterie italienne. Du coup, j'ai envie de te poser la question, t'es qui ? Est-ce que c'est ta cuisine du monde préférée, la meilleure pour toi, la cuisine italienne ?
Après,
est-ce que je peux juste faire un disclaimer d'abord ?
Bien sûr.
Je pense qu'on va faire... C'est un épisode où on va faire genre que se à la fois contredire et approuver dans tous les sens et qu'en fait, à la fin, on n'arrivera à rien.
Moi, je pense qu'on va y arriver.
Ok,
je pense
d'accord.
Qu'on va y arriver. Les meilleurs pour y arriver, en tout cas.
Je vais être le gars qui va défendre la cuisine italienne, notamment parce que j'ai pas la prétention de connaître les cuisines de d'autres pays aussi bien. Mais et puis c'est un truc sentimental aussi. Je suis 25% italien. J'ai grandi. J'ai passé énormément de temps chez ma grand-mère italienne quand j'étais petit. C'est ça mon background et c'est ça qui m'a traumatisé. Et c'est en y retournant un peu plus tard que je me suis pris les plus grosses claques. Il y a aussi le Japon.
Alors attends, on va pas tout spoiler. Je crois qu'on a aussi un défenseur du Japon à table qui va peut-être prendre la parole. Guillaume, on est sur une passe décisive.
Ah ouais, c'est ça. Moi, j'avais mis le Japon parce que, en fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui définit la meilleure cuisine, tu vois. Est-ce que
on va essayer de le faire ensemble, d'ailleurs.
Est-ce que c'est un ou deux plats? Est-ce que c'est une cohérence? Est-ce que c'est un travail des produits? Et c'est vrai que la cuisine italienne, elle est assez folle pour ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec très peu de choses et très peu d'éléments et très peu de préparation à mettre en valeur leur cuisine à eux. Mais je trouvais que le Japon était intéressant parce que je trouve qu'il y a tout dans la cuisine japonaise. Tu vas avoir à la fois le frit, tu vas avoir le cru, tu vas avoir les nouilles, tu vas avoir un travail des légumes. Et puis il y a aussi, parce que c'est des Japonais qui sont ultra précautionneux, ils réfléchissent à tout. Tu vois, c'est aussi une cuisine qui est plutôt bonne pour la santé en même temps, qui tout est réfléchi,
qui
est tout
est pensé.
Ouais, qui est pas grasse. Et puis même pas mal de vinaigre parce qu'ils ont compris que le vinaigre, que nous on le fait assez, mais que le vinaigre c'est aussi bon pour ton microbiote intestinal, donc c'est pour ça que t'as toujours des petits pickles de légumes dans n'importe quel japonais que tu vas, parce qu'en fait c'est bon pour la santé d'en manger.
Du coup, t'as cité 2-3 manières propres à la cuisine japonaise de faire des plats. Est-ce que t'aurais des plats un peu précis à citer pour les gens qui justement ont une culture peut-être de la cuisine japonaise
en fait? Il y a un autre truc que j'aime bien dans la cuisine japonaise aussi, c'est qu'en fait, alors il y a plein de trucs, mais ils ont aussi cette manie de... En fait, il y a 4 ou 5 trucs sur lesquels ils sont tous mis en tête de faire le concours de qui allait le faire le mieux. Et ça va être les ramen d'un côté, ça va être les tempura d'un autre, les sushis. Et en fait, tous les restos ont un level assez ouf parce qu'ils sont tous monomaniaques. Et si tu trouves les bons restos, c'est souvent un chef. Ça fait 45 ans que le mec fait des ramen. Et du coup, bah, il a masterisé le truc en fait. Et même un resto... Il n'y a pas beaucoup de restos moyens au Japon. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mauvais restos en tout cas.
Tu peux pas avoir de mauvaise surprise.
C'est rare, quoi.
C'est très très rare.
Et après t'as des trucs géniaux avec des mecs qui sont incroyables, mais même des fois si tu pousses une porte par hasard, en général tu vas plutôt avoir un truc bien. Et ça, je trouve que c'est aussi une conception de la cuisine que nous on n'a pas forcément, qui est intéressante aussi. Et c'était quoi la question que tu m'as posée? C'était
oui,
pas
après,
tout ça.
J'ai bien compris,
c'était
les trucs pas du tout y répondre.
Les trucs que
je voulais
identifier,
je vais formaliser.
Tu vas avoir le poisson cru sous différentes formes, sushi, sashimi, shirashi, les nouilles, donc ramen, soba,
udon.
On va mettre les raviolis aussi dedans, les gyoza. Après t'as les tout ce qui est frit. Tonkatsu, karage, d'autres trucs qui font frère. Et
il y a un truc, moi, c'est mon plat préféré, je pense, au Japon, c'est les okonomiyaki.
Ah,
c'est dégueulasse.
C'est
les petits dégueulasses. Ça, c'est un truc de touriste.
C'est un truc n'importe
de...
quoi.
Ah, je vais pouvoir faire ma propre pizza omelette. Okay. C'est trop
c'est
génial.
Premier clash.
C'est bon, c'est la raclette.
Quoi. En
c'est
plus,
la raclette.
Il le fait pour toi. Mais alors, déjà, la raclette, ça démonte.
Excuse-moi.
Non.
C'est gadget. C'est gadget. C'est
n'importe quoi.
C'est méga gadget.
Un droit de réponse, Cyrus. On veut le droit de réponse au clash.
Miyaki. Non, mais dire, c'est ce que t'as retenu de la cuisine japonaise, qu'est-ce que tu fais là?
Il y a trop de violence.
Attends.
Les gars, on est champions du monde, on peut s'aimer les uns les autres.
Non, mais déjà, j'ai envie de voir si. J'ai envie d'être sûr. Okay. On a perdu.
Guillaume quitte la table, il a pas supporté toute cette violence. C'est triste. Vas-y Cyrus, défends-toi.
Non mais attends, mais toi t'as mangé un okonomiyaki déjà.
Oui, bah j'en ai. Alors moi j'ai pas été au Japon. Est-ce que Teki t'as été au Japon aussi?
Oui.
Déjà. Ok, donc les trois personnes ici à part moi y ont été. Moi j'avoue, ma seule connaissance de ce plat que je vais pas citer parce que j'ai peur
okonomiyaki.
De très... Okonomiyaki, ça a été à Paris dans une rue qui s'appelle la rue Sainte-Anne, qui est entre guillemets connue pour ses nombreux ouais. restaurants japonais. Donc je sais pas si c'est le la vraie.
Mais t'as kiffé ou pas?
Ah j'ai kiffé.
Ok, Guillaume,
j'ai
kiffé.
C'est pas le plat le plus représentatif de la maîtrise japonaise.
Ce serait quoi du coup pour toi Guillaume ce plat?
Alors, il y a les sushis, parce que les mecs, ils peuvent vraiment aller sur des découpes hyper précises. En fait, ça, les sushis, c'est un bon exemple, parce que ça paraît juste du poisson cru sur du riz. Mais si t'écoutes les mecs qui maîtrisent les sushis, ils vont te, tu vois, tu regardes Jiro Dreams of Sushi, le documentaire de Netflix. Le mec, il t'explique que, bah, il a mis 10 ans à trouver son riz idéal et qu'il a telle cuisson, tel machin, et qu'en fait, les mecs, ils ont toute leur vie de trouver le meilleur sushi.
Ouais, Jiro Dreams of Sushi, c'est vraiment... je suis le stagiaire, ça fait 5 ans que je n'ai le droit que de masser le poulpe.
C'est ça. Et en fait, ça, il dit, non mais c'est cool, un jour, quand j'aurai bien appris à masser le poulpe, je pourrais passer à l'étape suivante, à savoir couper la
toucher
truite.
La méduse.
Ou toi, toucher la méduse, un truc comme ça. Même les ramen, en fait, où t'as aussi un truc de... C'est très peu d'éléments, les ramen, mais comment tu vas faire pour faire le meilleur bouillon et les meilleures nouilles et avoir ta cuisson du porc parfait, enfin tu vois.
Okay, donc toi, ce que tu kiffes dans cette cuisine, c'est la précision et le soin qu'on va mettre vraiment dans les mini détails et ce soin un peu se surpasser vraiment,
ouais.
Le savoir-faire quoi.
Entre autres, carrément.
Oui, il y a un côté cérémonie aussi, il y a un côté tradition dans ça, et c'est hyper beau et ça apporte de la valeur aussi au plat et un côté comme un peu tout au Japon, c'est un truc de nerd, et c'est un truc de spécialiste, et c'est un truc de d'art martial, c'est un truc de gens qui l'ont fait un milliard de fois pour le maîtriser parfaitement, et ça
c'est noble un peu.
C'est noble, vraiment noble.
Et je trouve que juste la cuisine a ça aussi. En fait, t'as des mecs qui juste ont passé toute leur vie à essayer de trouver comment on fait exactement une carbonara parfaite avec je prends quelle partie du porc, est-ce que je prends de la pancetta, est-ce que je prends le guanciale, est-ce que je prends machin, est-ce que je prends midule.
Tu prends du guanciale en l'occurrence.
Mais il y a des mecs à Rome qui disent qu'il faut pas prendre du guanciale. Mais un autre truc. En fait, t'as vraiment des. Le guanciale, c'est de l'ajout de porc, pardon, que tu fais. Mais en fait, et ceux qui vont dire ouais, mais moi, ma grand-mère, elle met le guanciale à tel moment et pas tellement.
Mais est-ce que t'as pas ça dans toutes les cuisines du monde? Est-ce que t'as ce truc expertise.
En France, j'ai l'impression qu'on est plus flex quand même. Après, oui, évidemment, t'as des mecs qui, tu vas dire, attends, on va manger la meilleure bouillabaisse, elle est là-bas et pas là-bas. Mais en France, la carte d'un resto, par exemple, change tout le temps, en fait. Enfin, la carte de beaucoup de restos change un peu régulièrement avec un plat du jour, un machin, un truc. Au Japon, t'as quasiment jamais ça, quoi. Tu vas dans un resto parce que tu sais que dans ce resto, tu vas manger les meilleurs gyoza et c'est tout, en fait. Et parce que tu sais que c'est là que tu vas les manger. Et puis, si tu veux manger un bon ramen, tu vas dans un autre resto qui fait les meilleurs ramen. Et en fait, t'es vraiment tout. Ultra spécialisé, t'as rarement plus de 4 plats pardon à la carte d'un resto quoi. Sauf des restos un peu plus chic ou un peu différents, mais la bouffe de tous les jours dehors, c'est ça quoi. C'est.
Du coup, si on synthétise pour l'instant les premières réponses, Teki, toi t'as dit la nourriture italienne parce qu'il y avait quand même un passif un petit peu lié à la famille, Madeleine de Proust et tout ça, et une diversité aussi qui te plaisait.
Une diversité incroyable, j'ai pas eu le temps d'en parler encore, mais c'est vrai que chaque région. D'une région à l'autre, d'une région à l'autre, ce sont des cuisines complètement différentes.
On a la diversité là. Guillaume, toi, t'as parlé du savoir-faire qui était un truc pour toi assez important. Cyrus, toi, c'est quoi ta cuisine, la meilleure cuisine du monde pour toi et pourquoi c'est la meilleure?
Alors, ma cuisine préférée, enfin, la meilleure cuisine du monde pour moi, qui n'est pas la même question que cuisine préférée,
oui,
mais.
Excuse-moi.
Non, c'est moi qui ai posé moi-même la question.
Voilà, non-clash.
Ouais,
non-clash réglé.
Non-clash réglé. Non, c'est comme Teki, moi, c'est la cuisine italienne. Je pense que avant d'être végétarien, je t'aurais peut-être dit la cuisine iranienne, etc., par rapport à ce passif aussi que j'avais.
Parce que je suis d'origine iranienne.
Parce que voilà, je suis d'origine iranienne, et des deux parents, ce qui fait qu'à la maison, c'était vraiment tout le temps bouffe iranienne. Et en fait, genre pareil, il y avait une grosse diversité, c'est super bon, voilà, enfin je pourrais développer ça, mais...
C'est quoi en quelques mots, juste les spécificités, les gens qui connaissent pas du tout, genre les plats phares ou les trucs...
Ah, il y a un épisode de Bouffon sur le sujet.
Il y a un épisode de Bouffon sur le sujet,
dans la description.
Je vous renvoie à cet épisode de Bouffon, mais voilà, en gros c'est un peu proche de la cuisine indienne et libanaise un peu, voilà, c'est un peu un mix entre les deux, mais bref, la cuisine méditerranéenne de manière générale me plaît. Tu vois, genre j'ai hésité un petit peu avec la cuisine grecque, etc. En fait, tout ce qui est fraîcheur, tu vois, genre je trouve ça ouf. Les mecs, ils te mélangent 2-3 trucs, et genre c'est l'été en 2 secondes dans ta bouche, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que la cuisine italienne, depuis que je suis végétarien, c'est celle que je préfère. c'est celle où il y a le plus de choix. Bah, en tout cas, là, de manière évidente, pour moi, c'est celle où j'ai le plus de choix. Tu vois, genre Japon, j'ai surkiffé, mais quand t'es végétarien, c'est une c'est galère un enfer, de ouf.
Tu sais jamais s'il y a pas une petite sauce en plus.
Il y a l'abonite partout, donc c'est un truc à base de poisson.
Du dashi, voilà, le bouillon.
Du dashi, ouais. Ce que j'aime aussi dans la cuisine italienne, c'est que ça a l'air simple de ouf. C'est-à-dire que, genre, moi, j'y connais rien en cuisine, mais pourtant, genre, on m'amène un plat italien, je comprends, en fait. Je comprends comment il est fait, à peu près, okay. Et je me dis, c'est faisable, et je pourrais peut-être le refaire chez moi, etc. Tu vois,
c'est hyper intéressant.
En fait, non.
Ouais. Et en fait, alors, non seulement non, mais plus que plein d'autres cuisines du monde, tu vois. Genre, je trouve que.
Eh ben, moi, je suis pas d'accord, c'est pas non.
Non, mais non,
c'est
pas non, non,
parce
non.
Que, on a parce que t'as envie de t'as envie d'essayer, tu vas peut-être te planter,
voilà,
mais
ça.
Tu vas peut-être savoir comment t'améliorer, tu lâcheras en fait, la paire, tu lâcheras pas l'affaire. Et moi, par exemple, je sais cuisiner une seule chose dans ma vie, c'est les spaghettis à carbonara, parce que je fais que ça à chaque fois que je vais à la cuisine, et au bout d'un moment, bah, j'y arrive.
En fait, je trouve que la cuisine italienne, elle a une accessibilité. Elle est accessible, tu vois. Et genre, tu te dis, par exemple, tu prends la tomate, de la mozzarella, tu fais la bonne sauce, genre, t'as une salade tomate mozza qui fait le taf, en fait. Et c'est ce que j'apprécie dans cette cuisine-là.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que sous l'apparente simplicité de l'exécution,
ouais.
c'est vrai que toutes les recettes italiennes, en tout cas beaucoup, nécessitent que très peu d'éléments. Mais justement, du coup, c'est vrai que t'arriveras jamais à le faire. Ce que je veux dire, c'est que t'arriveras jamais à le faire aussi bien, parce qu'en fait,
bien sûr.
T'auras jamais les tomates qui ont grandi sur le Vésuve ou le guanciale de Rome ou le poivre machin. Mais c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi avec cette cuisine, c'est qu'ils ont quand même réussi à verrouiller, en fait, à faire en sorte que bah tu peux manger que du bon italien en Italie, quoi.
Ouais, mais si tu veux, l'accessibilité fait que sera peut-être illusoire, mais t'auras au moins l'espoir de pouvoir le faire aussi bien. Et je pense qu'avec le temps, tu t'en approches.
Oui.
Et je pense que même si c'est même si voilà, les chefs italiens sont indétrônables, c'est moins cryptique que la cuisine japonaise.
Ah oui, complètement.
Oui.
Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas japonais. Mais.
Ouais,
la cuisine japonaise, il y a vraiment. T'as vraiment intérêt à être un master, si tu veux.
C'est beaucoup de plats qui peuvent être faits que si t'as un resto et que t'en envoies 70-80 dans le service, en fait.
Exactement, les ramen, je veux dire, tu vas pas faire un bouillon pour ton petit bol. Tu vois ce que je veux dire?
Ça prend 30 ans.
36 heures de bouillon pour servir un bol.
Voilà, tu sais, c'est pas possible, tu vois.
Du coup, la simplicité, c'est important.
Ouais, moi je pense que la simplicité est importante. Putain, je sais plus ce que je voulais dire.
En fait, c'est la relation simplicité-qualité et simplicité et art.
Une espèce
de
triforce qui
voilà,
se met en place.
Qui c'est ce rapport-là qui est important. Et,
ouais.
et
en fait, tu vois, genre quand tu regardes du tempura par exemple, donc ces brochettes frites japonaises.
Peu importe, des trucs frits. Ouais.
Ouais.
C'est des beignets.
Franchement,
des beignets.
C'est bête à dire, mais aujourd'hui, moi, tu vois, genre, mon niveau en cuisine, il est très faible. Je sais pas comment faire frire un truc. Tu vois.
Non, mais tu
vois, genre, je vois le truc, je fais comment c'est fait.
Okay. Surtout que le tempura, il y a une texture incroyable. Moi, j'ai jamais compris. À un moment, on m'a dit ils mettent de l'eau pétillante dans la pâte de beignet, ouais.
Et en fait, il faut qu'elle soit faite froide, du coup, elle n'a pas le temps de générer du gluten.
C'est
ça fait
beaucoup
un
trop
léger.
Compliqué, alors que la salade tomate mozza.
même une pizza. Tu vois.
Une pizza, mon gars.
Du coup,
pizza, c'est dur à faire. Pizza, c'est le seul contre-exemple.
Bah, si tu fais la pâte et tout, mais après.
Ah oui,
vrai,
attends, c'est un
débrouiller.
Autre exemple pour la cuisine italienne. Ouais. C'est juste la pizza, en fait.
Ouais, la pizza.
Les mecs ont inventé la pizza.
Sur une invention assez balèze.
Enfin, voilà, genre. Impose-toi face à la pizza, quoi.
Il y a un truc que je trouve marrant dans vos réponses, c'est qu'on a cité du coup, bah, exclusivement pour l'instant, la cuisine japonaise et italienne.
Attends, c'est quoi toi ta réponse, Tom?
C'est compliqué. Je pense que je dirais potentiellement italienne, mais en vrai, c'est la question que je vais vous poser. Je me rends pas compte si parce qu'on manque de recul ou quoi, mais j'ai envie de dire la cuisine française, en fait.
Ouais.
Et ça peut paraître un petit peu patriote de dire ça, mais est-ce que justement on n'a pas abordé, vous avez pas choisi la cuisine française parce que vous êtes français et du coup c'est un truc qui a plus peut-être ce mystère ou cet inconnu ou je sais pas, peut-être qu'on a trop le nez dedans. Mais je pense que si on posait cette question à beaucoup de gens dans le monde, potentiellement beaucoup répondraient à la cuisine française. Et pourquoi vous l'avez pas
dit? Je pense déjà si on élude le côté romantique, un peu romancé de la cuisine française et cette espèce de cliché qui excite que des vieux Américains
les gens qui ont regardé le film Ratatouille.
C'est ça. C'est ça. Tu vois, on a quand même une cuisine qui je pense, est assez impressionnante. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on n'a pas le recul, Mais c'est vrai que moi, j'en consomme énormément de la cuisine française et je prends toujours du plaisir à la consommer. Je pense que c'est juste un truc de. Moi, en tout cas, je l'ai pas mise parce que je voulais pas dire genre la cuisine française, monsieur, c'est la meilleure. Tu vois, genre.
Non, je comprends.
Mais... Moi, je l'ai pas mise parce que je pense que au-delà de la cuisine, je pense que les plats français sont victimes d'un truc un petit peu trop conventionnel.
C'est-à-dire?
Je dirais que c'est tout le temps les mêmes depuis toujours, il n'y en a pas 36. Bon, après les plats de nos régions, il y en a plein, mais je sais pas comment t'expliquer. Je suis pas estomaqué par la cuisine française autant que je suis estomaqué par le savoir-faire des chefs français. Et si on parle de cuisine dans le sens où sont les meilleures écoles de cuisine, où sont les meilleurs restaurants et où sont les meilleurs endroits pour apprendre à devenir un virtuose de la cuisine, là effectivement ouais. C'est en France.
Clairement beaucoup d'arguments pour la meilleure cuisine du monde quand même.
Ouais, mais...
Les chefs japonais qui veulent devenir le meilleur chef japonais, ils viennent en France apprendre la cuisine.
À Narizawa.
Apprendre la technique, point final.
Élève de Joël Robuchon.
Comment développer son truc. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Et les chefs du monde entier font ça.
Mais ça arrive de plus en plus aussi que l'inverse, que des mecs aillent se faire la main au Japon. Et de plus en plus dans les brigades, enfin je dis ça vraiment, c'est une analyse très personnelle de ce que je vois quand je vois des reportages, t'as toujours un ou deux mecs japonais dans l'équipe quoi.
Ah ça c'est sûr.
Pour, tu sais c'est vraiment juste une espèce, c'est un mariage assez cool quoi en fait, c'est-à-dire qu'en fait Alexandre Couillon par exemple à Noirmoutier, tu vois, il fait du poisson depuis super longtemps et puis à un moment il a découvert la technique de découpe japonaise Ikejime qui est en fait un truc qui fait que le poisson saigne moins en fait, donc il est plus tendre. Et tu vois, c'est vraiment juste la touche qui manquait à sa cuisine pour en faire un truc encore plus exceptionnel. Et souvent en fait, t'as toujours un japonais ou un coréen ou dans une brigade qui va apporter un petit truc en plus et tu vas le voir à la fin dans le soin apporté à un truc. Enfin, c'est assez intéressant à voir le mélange des deux. Là où les Italiens, je pense que là où en plus où ils se plantent avec des gros guillemets, mais c'est qui sont quand même très conservateurs et très fermés, j'ai l'impression, et du coup ils ont moins de, tu vois, des gens comme à Paris au Septime ou des mecs comme Iñaki du Chateaubriand à Paris qui sont des restaurants qui ont un peu été un moment en pointe de la bistronomie, on fait progresser les choses, on fait évoluer le truc. J'ai l'impression qu'en Italie ça existe moins et au Japon, je sais pas.
Botura,
en fait.
C'est ça, non?
Ouais, mais c'est le seul, il s'est fait défoncer quoi.
Il s'est fait défoncer, mais aujourd'hui c'est le meilleur.
Ah ouais.
Et tout le monde le dit. Tu vois, alors c'est vrai qu'ils sont en train tout le temps de lutter contre le côté la cuisine de mama sera toujours meilleure qu'au resto. Ça, c'est un truc que t'entends tout le temps
en Italie,
sur plein de cuisines, hein, au Mexique aussi,
chez nous aussi. Hein,
voilà, genre mais non, tu vas pas au restaurant, c'est meilleur chez la mama, tu vois.
Cyrus, tu voulais dire un truc?
Non, il y a Narizawa qui était un élève de Joël Robuchon qui a ensuite monté son restaurant au Japon. Et genre c'est suivant les classements, mais genre c'est souvent le premier restaurant du Japon. Il a déjà été premier restaurant d'Asie, etc. Enfin, c'est un peu une machine. Mais moi ce que je voulais dire, c'est genre par rapport à Teki qui disait que genre les plats français, etc., c'est toujours les mêmes. Bah, je suis persuadé que si j'étais italien, je penserais la même chose de la margarita, de la burrata, de machin. Je dirais ouais
non,
mais
alors, attends. Rien que encore une fois, on est dans le 9e arrondissement. Rien que rue de la Bruyère, il y a un restaurant qui s'appelle Via Emilia, qui est spécialisé dans la cuisine de Emilia-Romagna, qui est une région d'Italie dont honnêtement j'avais dû entendre parler une fois avant d'aller dans ce restaurant. Et genre, c'est des plats complètement différents. Enfin,
comme chez nous, genre t'as l'Alsace avec la choucroute, etc., et t'as la Bretagne avec les crêpes. Ça n'a rien à voir.
Non, mais l'Alsace, elle a quoi? Elle a la choucroute point à la ligne. Tu vois ce que je veux dire? En Emilia-Romagna, il y a des milliards.
C'est pas vrai. Mais la flamencuche, ouais. La saucisse Strasbourg.
Mais moi je suis auvergnat, il y a pas de problème. Je veux dire, mon père est auvergnat, je pourrais te parler de la truffade pendant des milliards d'années, mais c'est pas la richesse et la multiplicité des plats de chaque région italienne. Et la région d'après, Emilia-Romagna, c'est pas du tout la même chose. Et là, et en Sicile, le nord de la Sicile, le sud de la Sicile, c'est pas la même cuisine. Tu vois ce que je veux dire?
Mais on pourrait dire, pour moi, on pourrait dire exactement la même chose pour la France. Tu vois, genre la cuisine du sud-ouest n'a rien à voir avec genre la cuisine du côté PACA
ou la Picardie ou les spécialités bretonnes.
Je pense que de toute façon, ou Lille, oui. Tu vois, genre.
De toute façon, on n'a pas de. Je pense qu'on est trop dedans pour juger, à mon avis. Enfin, je pense qu'on n'a pas de recul du tout, en fait, pour juger la cuisine française, en fait. Même si, évidemment, si. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était bien, parce que c'était de dire, ouais, c'est vrai que si la cuisine. Déjà, une cuisine qui a réussi à se réinventer autant de fois, a réussi à influencer toutes les autres cuisines, a réussi à rayonner autant à différentes époques.
Tu parles de la nôtre ?
C'est la cuisine française, en fait.
Il y a un point que je voulais aborder, le temps file, avant d'arriver un peu à la fin, rapidement, il y a un point commun qui n'a pas été dit justement entre vos choix de cuisine préférés, qui n'a pas été cité comme argument, c'est la place du sucré dans cette cuisine. On en a très peu parlé.
Ouais, exact.
Du coup, rapidement, je veux juste savoir ce que vous en pensez et jeter un pavé dans la mare du monde de la cuisine. Est-ce que le sucré, on s'en bat pas un peu les couilles finalement ?
Moi ça m'intéresse moins, mais du
c'est
coup
pour ça que t'as pris japonais, du coup, parce que
c'est ça, parce
en termes de sucré, c'est vrai qu'ils sont pas
mais en fait là pour le coup je pense que pour le coup la France démonte tout le monde. Enfin moi du coup je regarde un peu quand je vais à l'étranger. Au Japon c'est très minimaliste et moi je trouve ça cool, mais on peut pas dire qu'ils ont une énorme culture sucrée. En Italie à la limite, mais ça reste quand même plus restreint. Après, dans les autres pays, aux États-Unis, aux États-Unis, c'est un peu la teuf, quoi. C'est des cookies et des donuts, quoi. Tu vois, mais c'est rigolo, mais c'est pas. Si on doit vraiment dire qu'il y a une cuisine. Pour le coup, je pense qu'en sucré, en tout cas, la supériorité française.
Est évidente.
Non, mais après, peut-être que j'oublie un truc, mais j'ai l'impression que, ouais. Si à chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, dans tous les. Chaque pays va avoir 2-3 trucs sucrés très à lui. Tu vas avoir les mochi au Japon, tu vas avoir les cannolis en Italie,
les
cookies, les glaces, peut-être en Italie aussi. En France, t'as 60 trucs, quoi. Enfin,
ouais.
C'est
ouais, on a les viennoiseries, je sais pas si d'autres pays mais ont non. Le concept ouais. De viennoiserie, ça qui est genre, c'est pas la pâtisserie, mais c'est pas la boutonnée, ouais. C'est genre un quatrième truc.
C'est pas du pain, mais c'est pas des gâteaux non plus.
Ouais.
Ça démonte, hein, c'est un bon concept.
Ouais, c'est tu vois et genre, c'est... Ouais,
et dans l'idée du savoir-faire aussi... Je n'ai jamais mangé de croissant du niveau de ce que tu manges en France. Nulle part, en fait. C'est-à-dire qu'à part vraiment si c'est un élève d'un mec français, si jamais tu dis putain, il est bon ce croissant en Allemagne. Tu sais, ça n'arrive pas, tu vois. Genre, c'est... Donc en fait, ça qui est aussi ouf, c'est qu'en fait, on est pour la pâtisserie, la viennoiserie et les gâteaux, on a aussi un talent.
Tout ce qui est la boulange. La boulange.
Est-ce qu'on n'est pas en train. On est tous arrivés avec notre pays préféré, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que la meilleure cuisine, c'est la cuisine française?
Putain, j'ai réussi à mettre l'Inception depuis 20 minutes, je suis pas content. Cyril, tu voulais dire un truc?
Ouais, je voulais dire. Alors, fun fact, en fait, j'ai appris que le tiramisu, c'est une invention hyper récente. Genre, je pensais que c'était vieux de ouf, mais en fait, c'était genre comment se débarrasser de. En gros, c'était la mascarpone. Ils se sont dit, bon, vas-y, on fait plein de mascarpone et tout, et comment on la vend?
On dit le, mais après.
C'est la mascarpone.
C'est la mascarpone.
Je crois que c'est le, moi, mais.
Moi, t'inquiète.
Le mascarpone.
Je sais pas.
Avec c'est non binaire, on s'en fout.
Ok.
Mais ouais, ça existe avec plein de plats. Hein.
Et ben, et du coup, genre le tiramisu, c'est hyper récent. Il me semble que ça date de après les années 50.
Ah ouais.
La fondue aussi. Hein.
Il me semble. J'ai pas envie de dire de conneries.
La fondue.
Au pire, on mettra le bon lien.
Au pire, on
la fondue, ça existe depuis le film.
depuis Astérix et Obélix.
Non, depuis les bronzés fondus.
Ah oui. Non, mais la fondue, c'est un truc qui date des années 50.
C'est là où ça a été
50.
Ça a été inventé par Gérard Jugnot, la fondue.
Ah, juste pour la mascarpone, on va vous dire maintenant, après vérification, si c'est vrai ou faux, c'est maintenant. Alors après vérification, c'est bien vrai, la recette actuelle du tiramisu n'apparaît dans aucun livre de cuisine antérieur aux années 60. Bonne émission.
Et en fait, ouais, la fondue, ça a été inventé parce qu'en fait, à un moment, les Suisses avaient une espèce de crise du fromage, ils n'arrivaient plus à en vendre, donc ils ont inventé toute une histoire pour le vendre aux Américains. D'expliquer.
Allô, Gérard Jugnot, qu'est-ce que tu peux nous conseiller?
Bougez pas,
les
bronzés vont du ski.
Alors, ce qu'on va faire, on va faire un film. Et là, tu vas voir que tout le monde va la bouffer, ta fondue.
Le lobby du fromage qu'il a appelé pour faire.
Les pad thai aussi, c'est un truc qui a été inventé il y a pas longtemps, c'est pas du tout un truc traditionnel.
Sérieux? Ouais.
Pendant une famine en Thaïlande.
Ça démonte, ça.
Une famine en Thaïlande, ils ont dit putain, on a trop de blé, on va faire des. Je dis peut-être une bêtise sur l'ingrédient principal, mais ils disent on va changer notre façon de faire les nouilles.
Putain, comme quoi les famines, ça a du bon.
On va utiliser la pomme de terre aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et en fait, ils ont dit ouais, on a inventé les pad thai, qui du coup est un plat un peu controversé en Thaïlande, je crois, parce que ça a été inventé par un mec qui était pas hyper cool. Mais on est en train de bosser dessus pour un futur épisode de Bouffon.
Ah, charmé.
À suivre.
Charmé. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de.
Si, au début.
De cuisine.
Ah, pardon, je pensais qu'on.
De cuisine thaï et tout.
Le mec est égocentrique. Ouais.
Non, j'ai l'air de nous. De qui et moi.
Mais d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de ce que je fais.
De mes podcasts.
Non, je veux dire, on n'a
si
pas
parlé. Sinon, je serais déjà parti.
Non, mais de la bouffe, non, j'allais dire Amérique du Sud.
D'ailleurs, je voulais vous parler un petit peu de ça. Bah, ça fait 5 ans qu'il y a les World Travel Awards qui élisent le même pays en tête des destinations où on mange le mieux. Et est-ce que vous avez une idée duquel c'est du coup ou pas du
c'est
tout.
La Chine.
On l'a pas cité aujourd'hui. Non.
C'est la Chine.
Non.
C'est les États-Unis?
Non. T'es qui? T'as envie de tenter un truc?
Bah, j'ai envie de tenter le Mexique parce que
c'est le plus près. C'est le Pérou.
Ah ouais, c'est un peu la mode en ce moment.
Assez mal, mais a priori, ça a l'air
les
assez
tiraditos.
Mais d'ailleurs, on a. Moi, j'ai pas parlé de la cuisine chinoise dans les meilleurs parce que je ne l'ai jamais vraiment expérimenté sur place, mais je crois qu'elle peut prétendre à une place de
en termes de diversité notamment ouais, en termes de province
et tout ça. Moi je suis allé à Hong Kong et tout le monde me l'a survendu et j'ai pas trouvé ça bon.
Moi je suis allé en Chine et c'était un peu particulier comme rencontre, c'est à dire que je m'attendais à goûter des trucs de ouf et qu'en fait on a un filtre très occidentalisé de la nourriture chinoise parce qu'ici elle est, la nourriture qu'on a en France est vraiment faite pour les occidentaux et du coup c'est très déstabilisant en termes de saveur et tout, c'est des choses très nouvelles, c'est intéressant mais du coup je sais pas comment c'est au Japon en termes par exemple de communication, de lecture des plats. Je sais qu'en Chine il y avait par exemple très peu d'anglais donc on se rendait jamais très compte de ce qu'on mangeait.
C'est pareil au Japon mais t'es toujours agréablement surpris.
Bah là moi j'ai pas eu ça malheureusement. Avant de se lancer dans le vote final, je voulais vous faire un petit vrai ou faux, c'est un peu la coutume dans cette émission. Je vais vous parler de coutumes et d'habitudes à table autour de la planète. Vous allez juste me dire si pour vous c'est vrai ou c'est faux. Au Japon, les gens fêtent Noël en allant manger au KFC.
C'est totalement vrai.
C'est vrai, ouais.
C'est absolument vrai.
Ils ont une espèce de délire là-dessus. Tu sais, toi ?
Ouais, moi je sais complètement. Je peux en parler, mais allez, ça va prendre tout l'épisode. Parce que ça me fascine.
Moi j'ai une version en deux phrases, sinon, si on peut faire
ouais,
ça.
Ouais, moi je suis plutôt chaud pour la version en deux phrases.
Christmas no Kentucky.
Bien joué.
C'est. En fait, le colonel, il ressemble au Père Noël.
Ah.
Donc, il y a eu un truc.
Ils ont fait une campagne marketing de ouf.
Les images de dinde que tu bouffes à Noël dans les séries télé américaines, c'est genre.
Le truc
c'est du poulet.
Proche pour eux, c'est le KFC, quoi.
Et au final, ouais, c'est ça.
Ouais,
et puis surtout, Noël, c'est pas très important pour
non,
les.
Non, ils fêtent pas du tout Noël là-bas.
Pour les Japonais. Et en fait, toutes les fêtes, genre Noël, Pâques, Thanksgiving, tout est un peu la Saint-Valentin au Japon. C'est-à-dire que tu y vas avec ta date et c'est juste une c'est pas vraiment famille, c'est plus ta date en fait. Et donc t'as même ta date au KFC, je sais pas.
Du coup, sachez qu'il y a un menu qui coûte 30€ et il y a un dîner poulet de Noël et champagne inclus dans le menu.
Moi,
c'est quand même plutôt beau.
C'est marrant.
Vrai ou faux, en Indre-et-Loire, les gens font de l'armistice en allant fluncher.
Alors des gens ont dû le faire, mais je sais pas si c'est une coutume.
C'est faux.
C'est pas une coutume malheureusement, ce serait stylé. En Hongrie, il est obligatoire de trinquer avec de la bière en début de repas.
Non, c'est faux.
Faux. J'ai jamais allé en Hongrie.
C'est faux.
C'est faux, car en 1848, le royaume d'Hongrie a entamé une révolution pour donner plus de droits et de liberté au peuple hongrois, mais cette révolution a été écrasée par l'armée autrichienne aidée de l'armée russe, et pour fêter leur victoire, on raconte que les soldats autrichiens n'ont pas manqué de lever leur verre de bière à la défaite des Hongrois. Donc du coup, depuis en Hongrie, c'est hyper mal vu de trinquer à la bière. Genre, ça
putain,
rappelle cet épisode
donc,
un petit peu.
Ah oui, c'est même pas que c'est pas, c'est même pas que ça se fait pas. C'est
exactement
vraiment interdit.
C'est vraiment hyper mal vu, quoi.
Ah ouais.
Donc, petit tip, hein, si vous allez
si tu vas en Hongrie et que tu trinques à la bière,
c'est très mal vu. Ouais.
Ah, putain,
tous les gens qui ont prévu de faire un EVG prochainement à Budapest, faites attention à ça.
Ou un film.
Classement pro. Non. Aux Pays-Bas, c'est très mal vu de chanter à table.
C'est faux. Non, vrai. Je sais plus.
Si, c'est vrai.
C'est faux, c'est vrai.
C'est vrai, c'est considéré comme chanter avec le diable. Tout simplement.
Le extrême.
Ouais, vraiment. En Espagne, c'est très mal vu de jouer de la contrebasse à table. C'est faux, c'est juste pas du tout pratique. Au Japon, il est mal vu de planter ses baguettes verticalement dans sa nourriture.
C'est vrai.
Cette position ferait trop penser à des bâtons d'encens qui sont utilisés pour rendre hommage aux morts.
C'est vrai.
C'est vrai, mais je sais pas si c'est pour ça.
Ouais.
Okay.
C'est absolument vrai. Et enfin, en Allemagne, il est mal vu de planter ses couverts en forme d'intersection dans sa nourriture. Cette position ferait trop penser à des croix gammées qui étaient utilisées. Ok, c'est bon. On arrête là.
Tu dis qu'il y a plein de règles sur les baguettes au Japon et nous, on les brise toutes une par une, quoi.
Sur le positionnement,
des baguettes, t'as pas le droit de pointer du doigt. Enfin, t'as pas que t'as pas le droit. C'est mal vu de pointer un truc avec tes baguettes. C'est mal vu de. Parce que moi, des fois, je le fais et j'arrête maintenant, mais tu sais, des fois, tu prends genre le bol avec tes baguettes pour le rapprocher avant de. Tu vois, ça, c'est mal vu.
Ah, j'ai jamais fait ça.
C'est mal vu de.
Dissident.
C'est tes baguettes qui vont à ta bouche et pas ta bouche qui va aux baguettes. Enfin, il y a toute une série de règles que tu dois respecter si tu veux juste bien te comporter.
Il me semble que c'est mal vu aussi de tenir un bol avec. Une main.
Non,
et
ils le font dans tous les mangas.
Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, mais
c'est vrai qu'il
y a un truc comme ça.
Il y a un truc aussi qui disait que c'était pas mal vu et qu'en fait, je les ai tous vu le faire. Donc, je me dis, ça faudrait creuser un peu plus.
Du coup, les amis, l'émission touche à sa fin depuis déjà un petit moment. On a bien dépassé le temps alloué de cet épisode. En deux phrases, ça va être le moment de passer un petit peu à ce choix décisif avec ce qu'on s'est dit sur de quoi peut être composée la meilleure cuisine du monde, savoir si vous restez campé sous opposition ou si vous changez. Cyrus, pour toi, finalement, c'est quoi la meilleure cuisine du monde ?
Ça reste la cuisine italienne.
Ok. Pour toutes les raisons qu'on a dit,
diversité. Ouais, toutes les raisons. Accessibilité, diversité, végétarien friendly. Et puis, c'est bon, quoi.
Guillaume ?
Ouais, je vais vous rejoindre, même si je dirais match nul entre l'Italie et le Japon, mais les pizzas.
C'est marrant, bah, c'est un match qui n'a pas eu lieu à la Coupe du Monde parce que l'Italie n'était pas qualifiée. Ça aurait pu, mais en fait, non. T'es qui ? Tu restes sur l'Italie aussi ?
Ce que j'en tire comme conclusion, c'est que le savoir-faire est en France.
J'ai hésité à dire que c'était la cuisine française, merde.
Franchement, la France et l'Italie sont quand même, c'est quand même vachement proche. Enfin, tu vois, tu vas dans le sud de la France et c'est une réinterprétation de la cuisine italienne pas mal. Enfin, j'en sais rien, honnêtement, je suis partagé. Puis là, on parlait du Japon et ça fait ressurgir pas mal de trucs très très forts chez moi. Donc, honnêtement, je suis incapable. En fait, je donne vraiment ma langue au chat sur ce coup-là.
Guillaume, est-ce que ça te fait changer d'avis ? Est-ce que t'as envie de changer ton truc et de passer d'italien à France ?
Ouais, je vais mettre la France, ouais.
Ok.
Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a pensé au sucré, on s'est quand même vraiment dit qu'en fait, admettons qu'on soit numéro 2 dans le salé, derrière l'Italie et le Japon, si tu rajoutes le sucré pour faire la moyenne, on passe largement devant.
Et on n'a même pas eu besoin de parler du vin en plus.
Ah ouais, ouais,
on peut faire monter
ni des fromages,
ouais,
ni des fromages.
Mais ouais, les gars, c'est la France. Stop, point à la
deuxième victoire en Coupe du Monde en deux jours. Dans deux
Tom, c'est quoi ton vote, toi?
Moi, je vais rester sur la France, hein, je suis désolé, mais je sais, c'est peut-être très arrogant ou présomptueux parce que je suis français, mais j'ai l'impression que c'est ce qui coche le plus de
trucs
qu'on l'a dit. Quoi.
On va être honnête, hein, genre là, on enregistre ça lundi, oui. Juste après, donc le 14 juillet et le lendemain de. La victoire de la Coupe du Monde.
Bien sûr.
Donc on n'a jamais été autant français que maintenant.
Oui. Genre, c'est
le grand, on est au paroxysme de notre caractère français. Voilà, c'est ça. Donc je suis pas du tout surpris de.
Du coup, bah c'est une victoire pour la cuisine française et ça s'applaudit. Bravo.
Bravo.
Écoutez, merci à tous en tout cas d'être venus pour ces débats enflammés, ces anecdotes pointues. Guillaume, on te retrouve où et quand ? On fait comment pour te suivre ?
On me retrouve dans Bouffon, qui est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Sinon, sur Instagram, Guillaume de YouTube. Et j'ai un livre qui s'appelle Saison.
Qui est super joli. Les illustrations, les machins et tout. J'ai pas encore pu l'utiliser, vraiment, parce que je cuisine peu. Mais, le concept est trop cool. Deux, il est super beau et il est utile. Enfin,
merci.
Bravo.
Et il se retrouve où, ce livre, du coup ?
Partout. À la FNAC, chez Cultura, sur le site de la FNAC, dans votre libraire. Allez dans la librairie et s'ils l'ont pas, ils vous se feront une joie de le commander pour vous. Et ça ira aussi vite que sur Amazon.
Top. T'es qui ? On te retrouve où ?
On me retrouve sur SoundCloud.
Sur le dance floor !
On me retrouve sur soundcloud.com/techie-latex. On me retrouve sur Twitter et Instagram, techie-latex. Facebook aussi, je crois que c'est techie-latex. Et puis sur le dance floor, effectivement, notamment lors du Red Bull Music Academy Festival en septembre à la Gaîté Lyrique pour une soirée dédiée à la musique de jeux vidéo.
À tous ceux qui sont là, à tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, on les lit tous. Si vous avez plus, n'hésitez pas à le partager aussi. On vous fait de gros gros bisous.
Et on se quitte en chanson comme d'habitude.
Bien sûr.
Simply the best.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.